Chapitre 7e. Le soir du jour où avait eu lieu le duel de M. de Maillefort, vers les 7h30, alors que le soleil commençait de décliner au milieu de nuages sombres, épais, qui présageaient une soirée pluvieuse, car déjà tombaient quelques rares mais larges gouttes de pluie, une jeune fille traversait la place de la Concorde, se dirigeant vers le faubourg Saint-Honoré. Cette jeune fille portait sous son bras gauche deux cahiers de musique, dont les reliures fanées attestaient les longs services. À la main droite, elle avait un petit parapluie dont elle s'abritait. Sa mise, des plus modestes, se composait d'une robe de soie noire, d'un mantelet de Paris étoffe, et quoique le printemps fût déjà avancé, d'un chapeau de castor gris noué sous son menton par un large ruban. Quelques légers flocons de cheveux d'un blond charmant, agités par le vent, débordaient la passe étroite du petit chapeau de cette jeune fille, et encadrait un frais visage de 18 ans au plus, alors empreint d'une profonde tristesse, mais rempli de grâce, de modestie et de dignité. Cette dignité, pour ainsi dire native, se retrouvait encore dans l'expression mélancolique et fière des grands yeux bleus de cette jeune fille. Sa démarche était élégante, légère, et quoique son ample mantelet dissimulât sa taille, elle semblait aussi parfaite que souple et dégagée. Enfin, bien que ces vêtements annonçassent leur vétusté par la mollesse de leurs plis et par une espèce de lustre terne, si l'on peut employer cette antithèse, ils étaient si merveilleusement propres et portés avec une si rare distinction que l'on oubliait leur quasi-pauvreté. La jeune fille, voulant traverser un ruisseau, releva un peu sa robe. Aussi, lorsqu'elle avança son joli pied, chaussé de brodequins bien cirés, à semelles un peu épaisses, elle laissa voir un bas de coton d'une blancheur de neige, et le bord d'un jupon non moins éblouissant, bordé d'un petit tulle de coton. Une pauvre femme, tenant un enfant entre ses bras, ayant murmuré quelques mots d'une voix implorante en s'adressant à la jeune fille, celle-ci, qui se trouvait alors au coin de la rue des Champs-Élysées, s'arrêta. Puis, après un moment de naïf embarras, car ayant les deux mains occupées, l'une par son parapluie, l'autre par ses cahiers de musique, elle ne pouvait fouiller à sa poche, la jeune fille plaça pour un instant ses cahiers sous le bras de la pauvresse et lui mit son parapluie dans la main. Ainsi abritée, elle et la mendiante, la jeune fille tira de sa robe une bourse de soie, ôta un de ses gants, prit dans la bourse qui contenait au plus 4 francs en menu monnaie, une pièce de 2 sous, et, presque confuse, dit à la mendiante d'une voix d'un timbre enchanteur, « Tenez, bonne mère, pardonnez-moi de ne pouvoir vous offrir davantage. » Et jetant un regard attendri sur la figure étiolée du petit être que la mendiante serrait contre son sein, elle ajouta « Pauvre cher enfant, que Dieu vous le conserve !» Et de sa main délicate et blanche, déposant sa modeste aumône dans la main amaigrie que la mendiante lui tendait, et qu'il trouva moyen de presser légèrement, la jeune fille remit son pauvre vieux petit gant, bien souvent recousu par elle, reprit son parapluie, ses cahiers de musique, jeta un dernier regard de tendre commisération sur la pauvresse et continua sa route en suivant la rue des Champs-Élysées. Si nous avons insisté sur les détails de cette aumône, détails peut-être puérils en apparence, c'est qu'ils nous semblent significatifs. Ce don, quoique bien minime, n'avait pas été fait avec hauteur ou distraction. La jeune fille ne s'était pas contentée de laisser dédaigneusement tomber une pièce de monnaie dans la main qui l'implorait. Et comprendra-t-on enfin cette nuance, sans doute insaisissable à bien des esprits? Pour offrir son aumône, la jeune fille s'était dégantée, comme elle eût fait pour toucher la main d'une amie. Le hasard voulut que M. de Raville, après avoir reconduit chez lui son ami, légèrement blessé, M. de Mornan demeurait dans le quartier de la Madeleine, le hasard voulut, disons-nous, que M. de Raville se croisa sur le trottoir de la rue des Champs-Élysées avec la jeune fille. Frappé de sa beauté, de sa tournure distinguée, qui contrastait singulièrement avec la plus que modeste apparence de ses vêtements, cet homme s'arrêta une seconde devant elle, la toisa d'un regard cynique, puis, lorsqu'elle eut fait quelques pas, il se retourna et la suivit, se disant, en remarquant le cahier de musique qu'elle portait sous son bras, « C'est quelque vertu du conservatoire, pour le moment égaré. » La jeune fille entrait dans la rue de l'Arcade, rue alors peu habitée. De Raville l'attalpa et, se rapprochant de l'inconnu, il lui dit insolemment « Mademoiselle donne sans doute des leçons de musique. Voudrait-elle m'en donner une à domicile ?» Et il serra le coude de la jeune fille. Celle-ci, effrayée, poussa un léger cri, se retourna brusquement et quoique ses joues fussent empourprées par l'émotion, elle jeta sur de Ravi un regard de mépris si écrasant que, malgré son impudence, cet homme baissa les yeux et dit à l'inconnue en s'inclinant devant elle d'un air de déférence ironique « Pardon, madame la princesse, je m'étais trompé. » La jeune fille continua son chemin, affectant, malgré sa pénible anxiété, de marcher tranquillement. La maison où elle se rendait se trouvant d'ailleurs très proche de là. « C'est égal, je veux la suivre, » dit de Raville. « Voyez donc cette donzelle qui, avec sa mauvaise robe noire, sa musique sous le bras et son parapluie à la main, se donne des airs de duchesse. » Cet homme faisait, sans le savoir, une comparaison d'une justesse extrême, car Herminie, la jeune fille s'appelait ainsi et n'avait pas d'autre nom, la pauvre enfant de l'amour qu'elle était, car Herminie, disons-nous, était vraiment duchesse, si l'on entend par ce mot résumer cette grâce, cette élégance native, que rehausse encore l'indomptable orgueil, naturel à tout caractère délicat, susceptible et fier. L'on a dit que bien des duchesses, par leurs instincts, par leur extérieur, étaient nées lorettes, et qu'en revanche de pauvres créatures de rien naissaient duchesses par leur distinction naturelle. Herminie offrait une nouvelle et vivante preuve à l'appui de cette opinion. Les compagnes qu'elle s'était faites, dans son humble condition de maîtresse de chant et de piano, l'avaient familièrement baptisée la duchesse. Celles-ci, elles étaient en petit nombre, par dénigrement ou par jalousie, les plus modestes existences, les plus généreux cœurs n'ont-ils pas leurs détracteurs? Celles-là, au contraire, parce qu'elles n'avaient pas trouvé de terme qui exprimât mieux l'impression que leur causaient les manières et le caractère d'Herminie, celles-ci n'étant autres, on le devine facilement, que la jeune fille dont Olivier avait plusieurs fois parlé à Gérald lors de leur dîner chez le commandant Bernard. Herminie, toujours suivie par de Raville, quitta la rue de l'Arcade, gagna la rue d'Anjou, heurta la porte d'un grand hôtel et y entra, échappant ainsi à la poursuite obstinée du cynique personnage. « C'est singulier, » dit celui-ci en s'arrêtant quelques pas. « Que diable va faire cette jeune fille à l'hôtel de Beauménil avec sa musique sous le bras? Elle ne demeure certainement pas là. » Puis, après un moment de réflexion, de Raville reprit « Mais j'y songe. C'est sans doute le David Femelle qui, par le charme de sa musique, va tâcher de calmer les douleurs de madame de Beauménil. Quant à celle-ci, l'on ne peut guère la comparer au bon roi Saul que par ses immenses richesses dont héritera cette petite Beauménil, à l'endroit de qui mon ami Mornan ressent déjà le plus cupide intérêt. Il n'importe. Cette jolie musicienne qui vient d'entrer dans l'hôtel de la comtesse me tient au cœur. Je vais attendre qu'elle sorte. Il faudra bien que je sache son adresse. » L'expression de tristesse dont le charmant visage d'Herminie était empreint parut augmenter encore lorsqu'elle toucha le seuil de l'hôtel, passant devant la loge du portier sans lui parler. Comme eût fait une commensale de la maison, elle se dirigea vers le vaste péristyle de cette somptueuse demeure. Il était encore grand jour. Pourtant, à travers le vitrage des fenêtres, l'on apercevait tout le premier étage splendidement éclairé par les bougies des lustres et des candélabres dorés. À cet aspect, la surprise d'Herminie se changea en angoisse inexprimable. Elle entra précipitamment dans l'antichambre. Là, elle ne vit aucun des valets de pied qui s'y tenaient habituellement. Le plus profond silence régnait dans cette maison, non pas bruyante d'ordinaire, mais forcément animée par un nombreux domestique. La jeune fille, dont le cœur se serrait de plus en plus, monta le grand escalier. Puis, arrivant au vaste palier et trouvant les portes des appartements ouvertes à deux battants, elle put parcourir d'un seul regard cette longue enfilade de pièces immenses et magnifiques. Tout était brillamment illuminé, mais déserte. La pâle clarté des bougies, luttant contre les ardents rayons du soleil couchant, produisait un jour faux, étrange, funèbre. Herminie, ne pouvant se rendre compte de sa poignante émotion, s'avança non sans crainte, traversa plusieurs salons et s'arrêta brusquement. Il lui semblait entendre au loin des sanglots étouffés. Enfin, elle arriva à l'entrée d'une longue galerie de tableaux formant équerre avec les pièces qu'elle venait de parcourir. À l'extrémité de cette galerie, Herminie aperçut tous les gens de l'hôtel agenouillés au seuil d'une porte aussi ouverte à deux battants. Un terrible pressentiment épouvanta la jeune fille. La veille, à la même heure, lorsqu'elle avait quitté madame de Beauménil, celle-ci était dans un état alarmant mais non désespéré. Plus de doute, ces lumières, cet appareil solennel, ce lugubre silence, seulement entrecoupé de sanglots étouffés, annonçait que l'on administrait les derniers sacrements à Madame de Boisménil, et l'on saura bientôt les liens secrets qui unissaient la comtesse à Herminie. La jeune fille, éperdue de douleur et d'effroi, sentit ses forces l'abandonner. Elle fut obligée de s'appuyer un instant à l'une des consoles de la galerie, puis, tâchant de dissimuler ses sentiments et de cacher ses larmes, elle alla, d'un pas chancelant, rejoindre le groupe des gens de la maison, et s'agenouilla parmi eux et comme eux à peu de distance d'une porte ouverte à deux battants qui laissait voir l'intérieur de la chambre à coucher de Madame de Beauménil.